RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal Nemo en Peace.
La RDC ne demande pas de l'aide, elle exige une solidarité juste et équitable. Les mots de Félix Tshisekedi. Hier, lors de ses vœux adressés aux ambassadeurs basés à Kinshasa, le chef de l'État a répété sa ligne rouge. Pas de discussion avec le groupe armé M23 qui, soutenu par le Rwanda, contrôle une partie de la province du Nord Kivu. Déjà, une heure de retard à Gaza, le cessez-le-feu n'est toujours pas entré en vigueur. Cet arrêt des combats reste une nouvelle réjouissante pour beaucoup. C'est le cas en Afrique du Sud qui a attaqué Israël devant la Cour internationale de justice. Vous entendrez un membre de l'ANC, le parti au pouvoir. Plus de 200 policiers kényans arrivés hier à Port-au-Prince. Ils viennent renforcer leurs quelques 400 collègues déjà sur place dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et puis, une baisse de la fréquentation dans les bars camerounais ces derniers jours. La faute à une pénurie de bière, de quoi contrarier les consommateurs mais aussi les commerçants qui n'ont pas d'explication. Félix Tshisekedi était hier face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa pour ses vœux de la nouvelle année. Le président congolais qui en a une nouvelle fois profité pour mettre la pression sur les pays occidentaux pour obtenir des sanctions ciblées contre le Rwanda voisin en raison de son soutien au groupe armé du M23 qui contrôle notamment une partie de la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Un dossier sur lequel Félix Tshisekedi a haussé le ton. RFI Kinshasa, Pascal Moulégua.
Face aux ambassadeurs, les tons étaient fermes et incisifs. Félix Tshisekedi souhaite aller plus loin que la myriade de communiqués contre le Rwanda et le M23.
La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. La communauté internationale doit maintenant transformer ses déclarations en actions tangibles, dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers, sont impératives.
Alors que l'escalade verbale entre Kinshasa et Kigali est au sommet, mais que les négociations sur la médiation angolaise sont en point mort, Félix Tshisekedi, à qui des appels au dialogue sont adressés, est resté catégorique.
La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais.
S'agissant de la peine de mort qui a fait l'objet d'une levée des boucliers, le président a apaisé les esprits. Aucune exécution n'a été faite à la suite d'une condamnation à mort. Lui qui, a-t-il rappelé, la levée du moratoire avait pour but de décourager la trahison au sein de l'armée et le terrorisme. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
L'est de la RDC, la province du Nord Kivu, avec ce bilan des attaques mercredi des ADF dans le territoire de Lubero qui s'alourdit. Au moins 45 morts selon Kambale Maboko, président de la société civile de la chefferie de Baswaga. Et puis alors que des soldats de l'opération ougando-congolaise Shuja traquaient ces assaillants ADF, ils ont été pris dans une embuscade tendue par des miliciens Maïmaï. Selon le porte-parole des FRDC dans la zone, il y a 2 morts et 10 blessés du côté des militaires congolais et ougandais. Nouveau bilan au Soudan du Sud, 12 morts en 2 jours dans des violences contre des Soudanais selon les forces de l'ordre. Des Soudanais pris pour cible depuis quelques jours après la circulation de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit des hommes portant l'uniforme de l'armée soudanaise s'en prendre à des ressortissants sud-soudanais après la reprise de la ville stratégique de Wad Madani dans l'état d'Al Jazeera. Dans la guerre civile qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, les paramilitaires du général Emmeti. Il était censé entrer en vigueur il y a un peu plus d'une heure. Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza a finalement pris quelques minutes de retard. Israël conditionnant son début à l'envoi par le Hamas de la liste d'otages. Le groupe armé palestinien évoque de son côté des soucis techniques et reconnaît un léger retard. Vous suivez l'évolution de la situation sur RFI et en direct sur RFI.fr alors que l'armée israélienne pendant ce temps-là a dit continuer à mener des attaques dans la bande de Gaza, la défense civile de Gaza qui annonce à l'instant 3 morts ainsi que des blessés. Toujours est-il que cette annonce de l'arrêt des combats faite mercredi soir avait aussi bien fait réagir dans l'enclave palestinienne que dans d'autres pays du monde. elle était particulièrement scrutée en Afrique du Sud, pays qui a poursuivi Israël auprès de la Cour internationale de justice pour génocide, à l'initiative notamment de l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Je vous propose d'écouter Boots Alvin, en charge des affaires étrangères pour le parti, joint par Amila Swilem. Il confie son soulagement et sa fierté.
On pense que cet accord de cessez-le-feu est un premier pas important qui va permettre de mettre fin à la crise humanitaire sévère vécue par les 2 300 000 Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Cette étape doit ensuite mener vers des négociations plus poussées autour de la création d'un État palestinien viable vivant aux côtés de l'État d'Israël. Nous pensons que nous avons, à notre petite échelle, contribué à ce cessez-le-feu en saisissant des institutions multilatérales comme la Cour internationale de justice ainsi que la Cour pénale internationale. Nous avons exposé la conduite d'Israël publiquement. Quand les livres d'histoire seront écrits, ils diront que nous nous sommes tenus du bon côté de l'histoire.
Boots Alvin avec Amira Swilem. Au moins 70 personnes tuées dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant au Nigeria, précisément sur la route qui relie Kaduna à Abuja. Alors que le véhicule s'était renversé, déversant ses 60 000 litres d'essence sur la route, des dizaines de personnes se sont ainsi précipitées pour tenter de récupérer de l'essence avant qu'un incendie ne soit déclenché après un contact avec un groupe électrogène. Ils sont déjà 400 sur place, plus de 200 autres policiers kenyans sont arrivés à Port-au-Prince ce samedi dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Pour accueillir ce nouveau contingent, il y avait du beau monde à l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Ambassadeurs américains et canadiens, directeur général de la police nationale ou encore le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. À Port-au-Prince, la correspondance de Peterson Luxama.
10h du matin, l'avion transportant les policiers a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Armes à la main, casque sur la tête, les nouveaux agents de la MMAS sortent de l'avion en chantant et en arborant le drapeau kényan. Cette nouvelle troupe rejoint les 400 policiers kényans déjà présents sur le sol haïtien. Leur objectif, aider les forces de l'ordre haïtiennes à lutter contre les gangs armés. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean salue l'arrivée de ces nouveaux policiers.
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle troupe kényane. À la fin du mois, un autre contingent arrivera en Haïti pour nous aider à faire face aux nombreux défis que connaît le pays.
De fait, le pays est confronté à une violence sans précédent avec des gangs armés qui sèment la terreur. Fritz Alphonse Jean persiste et signe. Quelque chose doit changer.
Actuellement, Haïti se trouve à un point de bascule. Le pays doit changer et il changera. Nous sommes dans une situation de guerre et nous devons faire face à cette guerre.
Les soldats et policiers qui devront faire partie de la mission multinationale arrivent au compte-goutte à Port-au-Prince, tandis que la paix peine à se rétablir. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
En Ouganda, l'opposant historique Kizza Besigye a été placé à l'isolement ce samedi selon son parti. Il comparaît devant la justice militaire de son pays depuis le 20 novembre pour possession illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Dorine Nyanjura, maire adjointe de Kampala, également l'une des responsables du parti de l'opposant, assure que Kizza Besigye n'est pas autorisé à interagir avec les autres prisonniers. Un porte-parole de la prison dément tout mauvais traitement envers l'opposant. Le Cameroun, dans ce journal, sur place, il est de plus en plus difficile de se procurer de la bière en raison d'une pénurie. Les consommateurs s'impatientent alors que la boisson se fait rare dans les bars et autres maquis. C'est le cas à Yaoundé comme dans les autres grandes villes du pays. Et la pénurie est telle qu'elle menace l'activité de revente dans les petits commerces de quartier où les amateurs de bière sont de plus en plus dépités. Polycarpe Somba, dans la capitale camerounaise.
Ce samedi soir, à Yaoundé, le bar Manvele, l'un des plus chauds du quartier Nkondongo, ne connaît pas sa fréquentation habituelle. La faute à pas de bière, estime Wilfried, le promoteur de cet établissement.
Les week-ends, c'est les jours de vente. C'est-à-dire, tout le monde qui vient là, est-ce que vous avez tel goût, il n'y a pas de clients, ils sont obligés de partir.
Sur l'une des tables, Florent divise joyeusement avec un ami, chacun a devant lui une bouteille de bière, mais renseigne-t-il, le goût qu'il consomme lui a été imposé par la pénurie observée dans les bars.
Je bois la moyenne parce qu'il n'y a pas la Lisembec. C'est pas le même parfum. Ben, on est obligé de faire avec parce que on va faire comment? C'est le goût forcé. Il y a des bars où je me retrouve, il n'y a rien.
Où réside le problème entre la production, la distribution jusqu'au consommateur final? Wilfried, promoteur comme tous se rencontrer dans la agricoles de Yaoundé n'a pas de réponse.
Quand on se retourne vers nos fournisseurs, qui sont les livreurs, comme on le dit, les livreurs nous disent que le problème vient des brasseries. Et on a essayé de rencontrer certains responsables des brasseries qui ne nous disent vraiment pas où se situe le problème exactement.
La tension est telle que plusieurs tenanciers de bars envisagent de fermer momentanément leur commerce. D'autant soutiennent-ils que les charges de fonctionnement, salaires, impôts, électricité et autres sont elles toujours stables, pendant que l'activité à contrario a drastiquement baissé. Polycarpe Sumba, Yaoundé, RFI.
Radio France Internationale, 7h40 en temps universel, chapitre économie pour refermer cette édition. Et la Banque mondiale qui vient de publier ses perspectives économiques pour l'ensemble de la planète. Selon l'institution, plusieurs indicateurs se sont améliorés sur un an en Afrique subsaharienne. Une croissance en hausse évoluant de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024. Cela sur fond de reflux d'inflation et d'assouplissement des conditions financières. Des résultats encourageants qui cachent des disparités marquées selon les pays. La Banque mondiale qui ajoute que les défis et les risques restent nombreux. Détail avec Charlotte Cossé.
Le conflit violent qui sévit au Soudan ainsi que les difficultés rencontrées par de grandes économies telles que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont freiné la reprise économique dans la région. L'inflation devrait baisser cette année, même si les prix de l'alimentation sont restés élevés en 2024. Dans ce contexte, la Banque mondiale anticipe une baisse des taux directeurs, ce qui devrait stimuler la consommation privée et donc l'investissement. Cependant, les marges de manœuvre budgétaires des États devraient rester limitées et donc contraindre les dépenses publiques. Mais ces évolutions macroéconomiques impactent peu le quotidien des populations. Dans les deux prochaines années, le revenu par habitant progressera, mais de manière moindre comparée aux autres économies émergentes et en développement. Il régressera même dans des pays comme l'Angola, la Centrafrique ou le Soudan. Parmi les risques de dégradation pointés par l'organisation, l'aggravation de l'instabilité politique et l'intensification des conflits violents dans la région, des taux d'intérêt qui resteraient élevés et pèseraient sur les pays déjà lourdement endettés, l'insécurité alimentaire ou encore de nouveaux phénomènes météorologiques extrêmes.
Charlotte Cossé du service économie de RFI. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquelroem.